Affaire du petit Émile Soleil, la garde à vue des grands-parents et de l'oncle et la tante de l'enfant de 2 ans et demi a été prolongée ce matin de 24 heures. Que peut-il se passer durant ces prochaines heures? Quelles sont les avancées? Quelles réponses pourraient être apportées? Nous serons en ligne avec maître Pascal Antique, avocat au barreau des Alpes-de-Haute-Provence. Débordement lors du match entre Briançon et Manosque dimanche. Le joueur de la cité Giono qui aurait sorti un couteau sera jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Gap pour violence avec arme. Il tentait d'échapper aux gendarmes et a pris l'autoroute à contresens à Fort-Calquier. Un motard a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Et c'est donc la une de l'actualité. La garde à vue des 4 membres de la famille du petit Émile a été prolongée ce matin. Les grands-parents Philippe et Anne Vedovini, ainsi que l'oncle et la tante de l'enfant, sont à nouveau entendus. Aurore Valory.
C'est hier à 6h30 que les grands-parents côté maternel d'Émile Soleil ont été interpellés à la Bouilladise dans les Bouches-du-Rhône. Cette petite commune d'un peu plus de 6000 habitants située au nord d'Allo. Anne et Philippe Vedovini ont 10 enfants. Marie Soleil, la maman d'Émile, est l'aînée. L'une de ses sœurs et l'un de ses frères, tous deux majeurs, ont aussi été placés en garde à vue. 4 membres de la même famille qui sont donc entendus depuis hier par les enquêteurs pour 2 chefs, homicide volontaire et recel de cadavres. On rappelle que les ossements de l'enfant de 2 ans et demi avaient été retrouvés 8 mois après sa disparition en mars 2024. 2 jours après une reconstitution sur les lieux. Une randonneuse avait fait cette macabre découverte à 1,7 km des lieux de la disparition. Une zone qui avait pourtant été fouillée en juillet 2023, mais qui pouvait être très végétalisée à l'époque, comme l'avait expliqué le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. Ces gardes à vue sont les premières dans cette affaire. L'enquête semble se resserrer au cercle familial, même si le parquet explique qu'il s'agit de vérification et de confrontation des éléments recueillis. La personnalité du grand-père Philippe Vedovini pourrait interpeller les enquêteurs. Décrit comme sévère, il était surveillant dans un pensionnat catholique du Pas-de-Calais et avait été accusé de violence sur mineurs. Il a été placé depuis sous statut de témoin assisté. Depuis la disparition de l'enfant de 2 ans et demi, les grands-parents se sont montrés très discrets avant une communication le jour des obsèques de leur petit-fils, le 8 février dernier. Dans une lettre envoyée à la presse, ils exprimaient leur souhait que le temps du silence laisse place à celui de la vérité. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse.
Et merci Aurore. Ces 24 nouvelles heures de garde à vue seront les dernières. Que peut-il se passer durant ces 24 dernières heures de garde à vue? Et pour en parler ce midi avec nous, maître Pascal Antique, bonjour.
Bonjour.
Avocat dans les Alpes-de-Haute-Provence, ancien bâtonnier des avocats pour les Alpes-de-Haute-Provence. Tout d'abord, cette question, qu'est-ce que ça veut dire une prolongation de garde à vue? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la piste est en train de se resserrer, qu'on privilégie peut-être plus un élément qu'un autre?
Alors, ça veut dire que c'est le cours normal d'une garde à vue dans le cadre d'une affaire importante comme cette dernière. Comme celle-ci, pardon. Je pense que les enquêteurs, en tout cas, c'est ce qui ressort des différents commentaires, que cette garde à vue était prévue depuis un certain temps. Elle n'arrive pas comme ça, dans une affaire de cette ampleur, comme une cerise sur le gâteau. Elle est préparée. Et donc, je pense que les enquêteurs ont beaucoup de choses à demander, des éclaircissements à avoir. C'est la raison pour laquelle elle me semblait tout à fait normal qu'elle soit prolongée pour une durée de 24 heures, qui est la dernière durée possible. Alors, généralement, je pense que les dernières 24 heures sont faites pour avoir des éclaircissements de plus, peut-être pour que les enquêteurs puissent, si ça n'a pas été déjà fait, abattre des cartes qui n'ont pas abattu lors des premières 24 heures. Vous savez, c'est très méthodique, un interrogatoire en garde à vue. Hein. On n'a pas affaire, on a affaire à des enquêteurs pointilleux, compétents, qui savent où ils veulent aller. Et donc, les premières 24 heures, j'allais dire, ça peut se passer de manière, je ne dis pas sympathique, hein, parce que c'est jamais sympathique, mais bon, plus ou moins, j'allais dire, un petit peu, ça se passe normalement, avec des questions. Et puis, au fur et à mesure, bien entendu, et surtout lors des dernières 24 heures, Effectivement, on peut mettre les gardés à vue devant leurs contradictions ou avoir des éclaircissements avec des cartes qui peuvent s'abattre de la part des enquêteurs, parce que c'est une procédure, j'allais dire, les avocats qui peuvent assister bien évidemment leur client hein, depuis la réforme, depuis les réformes successives, mais on n'a pas accès au dossier et donc on a affaire à une procédure contradictoire, mais un petit peu encore fermée quoi.
Ouais, quel est le rôle des avocats dans ce cas-là, puisque on a bien compris que les cartes sont entre les mains des enquêteurs, c'est eux qui savent où ils veulent aller, les avocats n'ont pas le dossier. Donc, quel est le rôle dans ce cas-là d'un avocat ?
Le rôle de l'avocat, c'est d'abord d'assister son client, de le conseiller en fonction de ce que son client peut lui avoir dit pendant la demi-heure dans laquelle... Parce que l'avocat peut s'entretenir une demi-heure avant... uniquement, il y a 30 minutes hein, de confidentialité entre l'avocat et ses clients. Après, il peut assister le client devant les gendarmes, enfin, devant les officiers de police judiciaire, mais après, il ne peut plus s'entretenir. Donc, il y a une demi-heure de 30 minutes, soit dès la première heure de garde à vue, soit après, lorsque le client demande à être assisté, son avocat. Donc, c'est très court. Alors après, bien évidemment, ce que se disent les avocats et leurs clients, ou les clients et les avocats, c'est absolument confidentiel. Et bien évidemment, au fur et à mesure des questions, les avocats peuvent orienter les questions, peuvent avoir des questions à poser. On peut leur demander s'ils ont des choses à rajouter. Ils assistent le client. Mais, encore une fois, ils ne sont pas les clients. Les clients, parfois disent des choses, parfois ils n'en disent pas. Parfois, ils ne disent pas tout le tour. Voilà, donc le rôle de l'avocat, son rôle, dans le cadre de la garde à vue, c'est un soutien, à mon sens, mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. C'est davantage un soutien un petit peu moral du professionnel qui est à ses côtés. Mais encore une fois, il ne maîtrise pas du tout l'entretien. Donc, à partir de là, voilà. Je pense que... Les dernières 24 heures sont un élément qui permet aux enquêteurs souvent, parce que après ces 24 heures, il n'y a plus de possibilité de prolongation. Donc, généralement, c'est là que tout peut se jouer.
Ouais. Il peut y avoir la possibilité aussi de confrontation entre les membres de la famille, c'est-à-dire les grands-parents et l'oncle et la tante. Comment se passe une confrontation ?
Eh bien, alors, il peut y avoir, alors je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je suppose que hier, ils ont été entendus individuellement, et c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre les gendarmes, les enquêteurs ont un certain nombre d'informations, donc d'abord, ils interrogent la grand-mère individuellement, après ils interrogent le grand-père, après ils interrogent les enfants individuellement, en fonction des auditions et de ce qu'ils ont déjà au dossier, ils font une petite synthèse de tout ça, et puis ils décident s'il y a lieu de les confronter, parce qu'il y a des contradictions entre les deux déclarations, parce qu'il y a des choses à apporter, la grand-mère a dit quelque chose, et le grand-père a dit un truc qui s'en éloigne un peu, donc des éclaircissements, donc soit il y a encore une fois une audition individuelle, et puis il peut y avoir aussi, après, des confrontations entre les gardés à vue.
Ça se passe dans un même bureau, chacun est face à face.
Ça se passe dans un même bureau. La confrontation se passe dans un bureau, oui, bien sûr.
Vous le disiez, après cette prolongation de garde à vue, ça ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'il peut se passer ensuite ? Qu'est-ce qu'il peut être décidé ?
Alors, ça ne peut pas aller plus loin. Ça peut aller plus loin, mais alors il y a trois solutions en fait. La première solution, c'est que au bout de 48 heures, on n'a pas grand-chose de plus qu'au début. Donc, ils ressortent libres, voilà, avec la possibilité d'être réentendus au fil de l'enquête. Mais bon, soit ils sont présentés, pardonnez-moi, devant le juge d'instruction pour une mise en examen. Avec ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution, où le juge d'instruction leur signifie, leur indique qu'il va les mettre en examen pour tel chef de mise en examen. Alors là, on est sur, pour l'instant, homicide volontaire avec recel de cadavre. Ça peut évoluer. En causé blessure involontaire et en entraîner la mort, enfin ça peut être sans intention de la donner, ça peut être aussi dans l'éventualité, mais là on serait vraiment dans un truc absolument macabre d'assassinat. Alors l'assassinat, c'est au-delà du homicide volontaire.
Ça n'est plus un meurtre, c'est prémédité.
Voilà, c'est plus un meurtre, c'est prémédité, c'est-à-dire qu'on sait que le petit Émile vient, qu'on a l'idée de le supprimer pour telle ou telle raison. Enfin, j'ose même pas imaginer cette affaire-là. Mais enfin, bon, après, tout peut arriver. Donc, soit ils sont élargis à la fin des 48 heures, soit ils sont présentés à un juge d'instruction avec une mise en examen, ou alors le statut de témoin assisté devant une éventuelle mise en examen ou avant un éventuel non-lieu si, au final, l'instruction ne permet pas d'établir les faits.
Voilà. C'est quoi ce statut de témoin assisté ?
Oh, le statut de témoin assisté, c'est un statut où on est toujours bien entendu présumé innocent, hein, puisque même le mis en examen est présumé innocent, même si la présomption d'innocence a laissé la place à la présomption de culpabilité, puisque souvent on dit dans les commentaires le présumé coupable. Le présumé coupable, c'est une notion qui n'existe pas dans le code de procédure pénale. Lorsque les journalistes, pas vous, parce que vous êtes d'excellents journalistes, vous utilisez le présumé coupable, ça n'existe pas. On est présumé innocent, on n'est pas présumé coupable. On est présumé innocent, voilà, c'est comme ça. Le témoin assisté, c'est qu'il y a des indices, mais ils ne sont pas suffisamment graves et concordants pour une mise en examen. Tout de suite. Ça peut être l'antichambre ou la mise en examen en attendant que les investigations progressent, et puis le juge d'instruction peut au final reconvoquer, dire ben voilà, j'ai suffisamment d'éléments pour mettre en examen. Voilà, ben, ça peut évoluer au fil de la procédure, ou ça peut très bien ne pas évoluer et le témoin assisté. Eh bien, on reste témoin assisté, et lorsqu'on reste témoin assisté jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, on n'est pas renvoyé devant le tribunal, puisqu'on ne peut pas envoyer un témoin assisté, on ne peut envoyer qu'un mis en examen, bien entendu.
Voilà, réponse donc demain matin à 6h30, puisque ce sera la fin des gardes à vue. Merci beaucoup, Maître Pascal Antique, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1 pour expliquer toute cette procédure qui concerne l'affaire du petit Émile Soleil. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le joueur de football soupçonné d'avoir agressé des supporters sera jugé ce mercredi après-midi en comparution immédiate. Une information de la procureure de la République de Gap, Marion Lozac-Meur. Les faits, souvenez-vous, s'étaient produits ce dimanche à l'Argentière-l'ABC lors d'un match entre Briançon et Manosque. L'homme de 24 ans est poursuivi pour des faits de violence avec armes sur plusieurs supporters et menace avec un couteau sur un groupe de supporters. La procureure précise que le mis en cause ne reconnaît pas l'usage du couteau et minimise les violences dénoncées. Un homme qui a déjà été condamné à 7 reprises en l'espace de 2 ans. Un motard condamné après avoir tenté d'échapper aux gendarmes du peloton motorisé de Peruy. Lors d'un contrôle sur l'A51, il a refusé de s'arrêter à l'échangeur de Fort-Calquier, a fait demi-tour et pris l'autoroute en contresens sur la bande d'arrêt d'urgence. Seulement, le motard a perdu le contrôle de son deux-roues, blessé au membre inférieur lors de cet accident. Il a été transporté au centre hospitalier de Sisteron. L'individu circulait sans assurance et en défaut de permis. Le tribunal de Digne-les-Bains l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire, de 2 ans, une obligation de travailler, de payer les sommes de 3000 euros d'amende délictuelle et une annulation de son permis de conduire. Plus de 100 personnes contrôlées sur les routes à Guillestre. Une opération des services de l'État survenue le 19 mars dernier. 12 véhicules légers et 55 utilitaires ont été contrôlés. Des verbalisations pour défaut de contrôle technique et surcharges dangereuses ont été dressées. Et puis cette belle frayeur pour 3 skieurs de randonnée sur les hauteurs de l'Arche dans l'Ubaye. Vers 10h30 ce mardi, une avalanche s'est déclenchée avec une plaque d'une épaisseur de 30 à 35 cm de neige sur une largeur de 200 mètres environ. L'un des 3 skieurs enseveli a pu être dégagé par ses 2 compagnons bien équipés. L'homme enseveli était indemne, une avalanche qui n'a pas nécessité l'intervention des gendarmes du PGHM. La ligne ferroviaire Paris-Briançon, une nouvelle fois pire ligne de France en 2024. C'est le classement de l'entreprise Ville de Rêve qui le dit. La ligne entre la capitale et la cité Vauban est la moins ponctuelle avec seulement 52% de trains à l'heure l'an dernier. En 2023, la ponctualité était de 50%. Du côté du réseau Altigo, c'est dans le Briançonnais, la fréquentation est par contre toujours en hausse. Entre septembre et décembre dernier, la fréquentation est en moyenne de 14% supérieure à celle de 2023. 290 000 voyages ont été comptabilisés. Les abonnements mensuels ont augmenté de 62%. C'est même une progression de 75% de ce type d'abonnement pour les 25-69 ans. 2000 serviettes hygiéniques, mais aussi 400 tampons ont été récoltés lors d'une collecte solidaire dans le Guillestrois-Quéra, un événement mis en place par la Comcom et la ville de Guillestre. Une femme sur trois est en effet confrontée en France à la précarité menstruelle. 4 millions de femmes et personnes menstruées manquent de protection périodique selon les chiffres du gouvernement. Ces protections seront redistribuées le 3 avril prochain à trois associations, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours Populaire.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.